Et puis, l'objectif donc de ce cours était toujours de ressembler à Christ dans différentes facettes de sa vie. Et aujourd'hui, nous voulons voir Christ comme dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, pour un rappel rapide, la semaine dernière, nous avons vu ensemble avec le frère Mauricio comme Christ dans son humilité. Et cette humilité-là, donc, qui a conduit à sa mort, et l'humilité était fortement reliée à l'obéissance. Et nous avions vu aussi que, malgré sa position, parce que Christ était, il avait la position de Dieu, mais il a pris la position de serviteur. Et on a fait un rapprochement entre l'orgueil et puis l'humilité. Et un élément aussi essentiel qui était ressorti la dernière fois, c'est que l'humilité, au fait, c'était un acte d'obéissance. On le faisait de façon volontaire. Et on a vu Christ roi qui décide volontairement de servir. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels on a pu échanger. Et donc, dans son humilité, nous, en tant que chrétiens, il était essentiel aussi que nous puissions ressembler à Christ dans son humilité. Mais l'humilité, c'était pas aussi, dans les discussions, il est ressorti que c'était pas aussi facile, c'était pas aussi évident d'être humble. Mais on devait l'être parce que le Seigneur nous le demande. On devait l'être parce que c'était une recommandation de Dieu. Je dirais, ce sont ces quelques éléments-là que je peux faire ressortir dans ce que nous avions vu dimanche dernier. C'est pas si quelques-uns peuvent apporter d'autres éléments, deux ou trois éléments, comme Christ dans son humilité. Quels sont les éléments qui peut-être nous ont frappés dans ce que nous avions regardé la dernière fois? Parce que c'est son humilité qui a poussé jusqu'à la mort sur la croix. Une autre intervention, comme Christ dans son humilité, quand il a lavé les pieds des disciples, donc il s'est encore abaissé pour le faire. Et puis l'humilité, au fait, touchait aussi l'amour. L'humilité, comme on a dit, touchait l'obéissance. Et puis l'humilité touchait aussi la patience. Donc il y a tous ces éléments-là qui se mettaient ensemble et puis, concernant l'humilité. Donc il fallait qu'on ressemble à Christ dans cette humilité-là. Et lorsqu'on part, comme le frère l'a dit tantôt, on est arrivé jusqu'à la mort de Christ. Mais c'est cette humilité-là qui va conduire Christ jusqu'à la mort, afin qu'à la fin, son nom puisse être élevé et être au-dessus de tout nom. Donc c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui comme Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Alors je voudrais que nous puissions prendre Romains 6, du verset 1 au verset 13. Donc tout ce que Jésus manifeste est sur une base d'humilité. Donc une humilité volontaire, une décision volontaire de le faire. C'est-à-dire qu'il sait sa position, mais malgré cela, il accepte d'agir, d'obéir à son Père. Romains 6, 1 à 13. Donc regardons-nous comme morts au péché et vivant en Dieu pour Jésus-Christ. Donc c'est à la mort de Christ que nous devons notre salut. Il est important de comprendre l'implication donc de cette mort-là dans notre vie de tous les jours. Alors, que signifie pour nous la mort de Christ? Ou par rapport à notre vie de chrétien, par rapport à notre chrétienté, le texte est relié à... La mort de Christ, c'est notre salut. La mort de Christ, c'est notre salut. Et qu'est-ce que cela implique, cette mort-là, dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien? Donc, la mort de Christ pour nous, c'est ce qui nous assure le salut. Et puis, cette mort-là a deux œuvres, deux actions spécifiques. D'abord, c'est notre justification. Donc, comme le frère l'a dit, c'est-à-dire, Christ vient régler l'affaire du péché pour nous. Ça, c'est la première œuvre. Et la deuxième, ce serait donc, comme on a notre mort au péché, mais ça, on va revenir là-dessus. Donc, concernant notre justification, c'est-à-dire, premier élément qu'on retient d'abord, effectivement, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Donc, il vient régler tout ce qui concerne le péché. Donc, il nous justifie. Et à la croix, si Christ n'avait pas été à la croix, certainement, nous aurions payé les châtiments de nos péchés. Les conséquences de nos péchés, on les aurait subis nous-mêmes. Donc, Christ lui-même porte, il prend les châtiments de nos péchés. C'est-à-dire, les châtiments qui devaient retomber sur nous, c'est sur Christ que ces châtiments-là retombent. Mais en même temps, une question me vient, c'est-à-dire, si aujourd'hui, dans nos habitudes, dans nos actions spécifiques aujourd'hui, s'il arrive que nous péchons, est-ce que ce péché-là peut avoir des conséquences sur notre vie de tous les jours? Là, le mot est utilisé à juste titre. C'est-à-dire, ne pourrions plus pratiquer le péché. C'est-à-dire, c'est dit à juste titre. Parce qu'en tant que chrétien, en effet, il arrive qu'on pêche. ou je dirais, il arrive qu'on peut pécher en tant que chrétien. Mais la différence, c'est qu'on ne va pas se vautrer dans le péché. C'est-à-dire on ne prendra pas plaisir à pécher parce que l'Esprit de Dieu nous parle. On ne prendra pas plaisir à pécher. Donc voilà, ce serait la différence entre celui qui pratique le péché et celui qui ne pratique pas le péché. Parce que celui qui pratique le péché, c'est, je dirais, il n'a pas cette conscience chrétienne ou spirituelle qui va le ramener à dire « Ah, mon enfant, tu as péché, repens-toi. » Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre celui qui a accepté Christ et puis celui qui n'a pas accepté Christ. C'est bon? Et puis, donc, pour revenir à la question que je donne un exemple banal pour revenir à la question, je dirais, subsidiaire que je posais tantôt. S'il arrive effectivement dans notre vie de tous les jours, je donne un exemple banal. Je vais prendre peut-être quelqu'un qui, après une vie de débauche sexuelle, par exemple, se retrouve à être contaminé, par exemple, du VIH, sida, à être contaminé du VIH. Est-ce que celui-là est pardonné par Dieu quand il revient à lui? C'est ça, c'est ce que je voulais dire. On n'échappe pas aux conséquences. C'est-à-dire, Dieu nous pardonne dans son amour, il va nous pardonner, nous accepte comme enfants de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que parce que Dieu nous a pardonné et nous a accepté comme enfants de Dieu, automatiquement, si on est contaminé, ce virus-là, il disparaît. Dieu, dans sa grâce, il est souverain, il est capable de guérir comme il veut. Mais s'il y a une conséquence par rapport à ce acte de péché-là, on le subit. Pour notre corps physique terrestre, on va le subir. Ça, c'est comme le frère l'a dit, dans notre humanité, on va le subir. Mais Dieu nous pardonne tout de même. Amen. Oui, parce qu'on va se retrouver où on aura des enseignements, par exemple, qui vont passer pour dire non, mais quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et Seigneur, tu dois être guéri de toutes sortes de maladies. Dieu décide de guérir qui il veut, quand il veut, où il veut. Parce que quand on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous pousser. C'est-à-dire, lorsqu'on se détourne de la face de Dieu, quelle que soit notre désobéissance, quelle que soit la désobéissance, l'Esprit de Dieu va nous parler. Et peut-être dans notre entêtement, on va continuer à désobéir. Sinon, l'Esprit de Dieu va nous parler. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Je voudrais revenir là-dessus. C'est une personne, donc. Quand on va faire un premier pas, avant d'abord même de désobéir, il va nous avertir. On va s'entêter, on va continuer. Il va nous avertir. Mais arrivé un moment, il va nous regarder faire jusqu'à ce qu'on cogne et on revienne à lui. Ayons à l'esprit que Dieu parle à nos cœurs. Dieu va nous parler à tout moment. De différentes façons, Dieu va nous parler. Lorsqu'on est attentif à lui, il va quand même nous parler pour qu'on puisse revenir à lui. Concernant toujours l'opération de notre justification, est-ce qu'on peut lire 1 Jean 1, 7 et 1 Corinthiens 15, 3? On a dit la mort de Jésus représentait donc, voulait dire que Christ était mort pour nos péchés et qu'il a subi le châtiment pour nos péchés aussi. Et il a expié nos péchés et nous permet d'être justifiés par Dieu. Oui, 1 Jean 1, 7, s'il vous plaît.
Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
1 Corinthiens 15, 3. Donc, Christ est mort pour nos péchés. Donc, ça, on doit pouvoir le retenir. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos désobéissances, quelles que soient nos impuretés, Christ est venu mourir pour nos péchés. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une réalité. Ce n'est pas la connaissance qu'on va avoir comme ça juste pour en parler. Mais réellement, Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et on doit pouvoir intégrer cela dans notre vie en tant que chrétien. Mais qu'est-ce que cela va faire lorsqu'on l'accepte de la sorte? Mais cela vient confirmer notre identité avec Christ. Cela confirme notre identité en tant que chrétien. Parce que c'est ce qui va faire la différence entre celui qui a accepté Christ et celui qui n'a pas accepté Christ. Celui qui a accepté Christ reconnaît qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Et Christ est ce sauveur-là qui est venu mourir pour lui à la croix. Donc ça, c'est un acquis. On doit pouvoir saisir cela, effectivement, avec foi. Ésaïe 53, verset 6, dit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru? qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il a pris le châtiment que nous devions prendre. Il a pris cela pour nous. Et donc, c'est cette espérance, c'est cette grâce, c'est cette joie-là que Dieu nous fait. Désormais, comment Dieu nous voit en tant que chrétiens? Comment Dieu nous voit? Comme juste, comme Jésus. Dieu nous voit purifié. Dieu nous voit justifié. C'est-à-dire, on peut se donner cette image-là, ça est du haut du ciel comme une loupe, et puis Dieu nous regarde. Mais quand Dieu nous regarde, malgré, je dirais, nos péchés, principalement moi, mes péchés qui sont au-dessus de ma tête, heureusement que je ne suis pas trop grand, donc mes péchés qui me dépassent, mais quand je viens au Seigneur, que je demande pardon, le Seigneur me sanctifie. Quand Dieu il me regarde du haut de son trône, quand il me regarde, mais il ne voit pas l'impureté, il ne voit pas mais il voit Célestin justifié, purifié par le sang de Jésus. Amen. Voilà, donc c'est comme ça que Dieu nous voit. Donc on n'a plus besoin de se culpabiliser pour, je dirais, des péchés de 100 ans passés, peut-être une vie de 100 ans passés qu'on a vécue qui n'a pas honoré Dieu. Et aujourd'hui, encore, peut-être on se répète, ah, mais vraiment, j'ai péché. Et puis on pense que le sang de Jésus ne nous purifie pas. Le sang de Jésus nous purifie, quel qu'il soit. Ce qu'a été du moins nos péchés, ce qu'a été notre vie. Ce n'est plus ça que Dieu regarde. Mais Dieu dit désormais, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues par le sang précieux de Jésus-Christ. Il ne voit pas nos péchés. Mais qu'est-ce qu'il voit? Ce qu'on va avec cette image-là? Le sang sur les linteaux que l'ange voyait. Donc c'est le sang de Jésus que Dieu voit. Et on doit pouvoir être convaincu de cela. Le sang de Jésus nous purifie de tout. Oui, quand on lit le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 6, tu peux lire le verset 1? Oui, Zami, lis 1 et 2. Lis un peu fort, s'il te plaît. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, c'est la deuxième partie qu'on va aborder maintenant. Nous qui sommes morts au péché. Lorsque quelqu'un est mort, donc, si on est mort au péché, est-ce que le péché a encore un pouvoir sur nous? Non. Mais là, on est mort au péché, là. On est mort au péché comme Christ. Parce que Christ a pris nos péchés à la croix. Oui. N'est-ce pas?
Et on continue de
pécher. On continue de pécher. Mais on ne le fait plus de façon volontaire. C'est ça. Parce que là, Christ est mort au péché. Donc, Christ a pris nos péchés à la croix. N'est-ce pas? Donc, Christ, de son vivant, il était soumis à la tentation. Il était soumis à la souffrance. Il était soumis à la douleur. Mais Christ est mort et il est ressuscité. Donc, il est devenu victorieux de la mort, du péché, de la tentation. On s'identifie à lui. Donc, comme Christ, on dit que nous sommes devenus une même plante. Donc, comme Christ est mort au péché, nous aussi, nous sommes morts au péché. C'est-à-dire, on n'a plus la domination que le péché avait. Le péché n'a plus la domination sur notre vie. Voilà pourquoi on a dit tantôt qu'il est important que nous puissions comprendre que ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand on dit que Christ est venu mourir pour nous à la croix, premier élément. Deuxièmement, Christ est ressuscité. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est des vérités. Donc, on doit pouvoir les intégrer, les accepter. Donc, lorsque Christ est mort à la croix, lorsque Christ est mort au péché, nous aussi, nous sommes morts au péché. Donc, si nous sommes morts au péché, cela implique quoi? Donc, cela implique d'abord que le péché ne nous domine plus. C'est ça. Il n'a plus de pouvoir. C'est-à-dire, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Oui. Romains 5, 21. Je commence à partir du 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que le péché a régné. Le péché dominait, le péché avait des droits sur nous. Mais à la mort de Christ et à sa résurrection, le péché a perdu ses droits. Donc, on ne vit plus pour le péché, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, on vit pour faire plaisir à Dieu.
Oui, on pêche tout le temps parce que c'est la nature humaine. Mais, comme j'ai dit tantôt, on ne le fait pas de façon volontaire. On va prendre 1 Jean 1, verset 8 à 9. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons et la vérité n'est point en nous. Ici, à qui le texte s'adresse? Le texte s'adresse à des personnes qui ont accepté Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Donc, à des chrétiens comme nous, à des personnes comme nous. Est-ce qu'on pêche encore aujourd'hui? Donc, si on dit qu'on n'a pas de péché, c'est que nous sommes des... Et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est ce que la parole de Dieu déclare, c'est clair. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais on confesse parce que on sait qu'on a un Père dans le ciel. On sait que le sang de Jésus a coulé pour nous. C'est pour cela qu'on va aller confesser, parce qu'on a cette assurance-là que le péché ne domine plus sur nos vies. Donc, on est complètement pardonné. Donc, cela n'exclut pas le fait que il y a cette dualité-là qui va toujours exister, c'est-à-dire la vie de péché puis la vie de sanctification. Donc, on sera comme au milieu, comme l'apôtre Paul le disait, je fais ce que je ne veux pas faire. Vous voyez, donc c'est dit qu'effectivement, il y a cette nature pécheresse-là qui est là. Mais on n'est plus sous la domination de ce péché-là. Il y a 1 Corinthiens 10, 13, qui dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne survienne, qui soit au-dessus de nos forces. Oui. Mais en face de la tentation, Dieu nous donne les moyens d'en sortir. Donc c'est dit que Dieu même est conscient que nous serons en face de la tentation. Mais il est là pour nous secourir. Même quand nous tombons, il est là pour nous relever. Donc, nous sommes morts au péché, c'est ça. C'est notre identification à Christ. C'est le fait que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est le fait que, comme le frère Lionel le dit tantôt, c'est le fait qu'on est capable, par la grâce de Dieu, par l'Esprit du Saint-Esprit, de dire non au péché. On se sent esclave du péché parce que on va pécher malgré nous. On veut pas, mais il arrive qu'on pêche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on pêche volontairement. Voilà. Donc, c'est ces deux éléments qu'il faut retenir dans son intervention. Mais lorsqu'on pêche volontairement, c'est-à-dire là, c'est à la limite encore de la désobéissance. C'est-à-dire là, on est conscient et puis on y va. Mais à cette allure, quand on y va de la sorte, arrive un moment, l'Esprit de Dieu aussi va dire, mon ami, du calme. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Comprenez, c'est-à-dire, en ce moment-là, on s'oppose même à ce que Dieu dit, forcez-vous d'entrer dans mon salut. Or, la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de sanctification. C'est-à-dire, donc, notre désir, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, le désir que Dieu met en nous, ou Dieu voudrait que nous puissions avoir, c'est de rechercher la sanctification. Ça, c'est ce que Dieu désire pour nous. Et puis, c'est à tout niveau, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos paroles. Des fois, dès que tu te lèves du lit même, c'est-à-dire avant même de mettre les pieds au sol, tu as déjà foudroyé des personnes dans la tête ou tu as déjà eu des attitudes. Donc, vous voyez, donc c'est vous dire que, voyons pas seulement le péché peut-être physique ou peut-être qu'on va voir, voyons pas seulement le vol, voyons pas seulement l'impudicité, voyons pas seulement ça, mais voyons tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, même dans nos pensées, dans nos paroles, dans chacune de nos motivations même, on peut se détourner de Dieu, on se détourne de Dieu des fois. Mais est-ce pour autant que le sang de Jésus nous purifie pas de tout péché? Il nous purifie de tout péché, c'est ça, faut qu'on le veuille. Au fait, le péché ne se passe pas seulement dans notre tête, mais c'est tout le corps. Effectivement, en effet, on ne dit pas le contraire, donc le péché, c'est pas seulement... dans nos pensées, mais le corps aussi, le péché a ses conséquences aussi sur le corps. Et puis, il donne l'exemple, effectivement, d'un frère qui est un chrétien, donc je dirais selon sa profession de foi, qui allait avec le Seigneur, et puis avait des problèmes, tentait de le régler, et puis un jour, il s'est jeté par... Voilà, il s'est jeté par le pont. Voilà, donc c'était un peu ce qu'il voulait nous faire remarquer, attirer notre attention effectivement sur le fait qu'on peut être chrétien et puis être soumis à une situation dans laquelle on peut être en train de se débattre et puis Nous devons comprendre que ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une vérité. Puis Dieu l'a fait pour nous. C'est-à-dire, le sang de Jésus est venu pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos transgressions, quelle que soit la vie qu'on a menée ou quel que soit l'acte qu'on a posé, lorsque nos cœurs se tournent vers Christ et que nous demandons pardon, croyons et acceptons que Jésus-Christ nous a purifiés. La croix, donc nos regards. Parce qu'à la croix, les choses se sont passées à la croix. Jésus a souffert à la croix pour nous et puis ce n'est pas inutile et c'est la vérité. Donc on doit pouvoir intégrer cela et accepter cette grâce-là. Donc, pour nous, être mort au péché, c'est que le péché n'a pas de pouvoir sur nous désormais. Et le péché a perdu ses droits sur nous. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous marchons dans la sanctification. Et nous acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu. Ça, on l'avait, dimanche dernier, on a fortement discuté là-dessus, c'est-à-dire, parlant de l'humilité, effectivement, il fallait se soumettre de façon volontaire, parce que la volonté de Dieu est là, mais on a notre libre arbitre. On peut décider d'obéir à la parole de Dieu, comme on peut décider de ne pas obéir à la parole de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu nous pousse à obéir à la parole de Dieu. Amen. Voilà, parce que quand l'Esprit de Dieu ne nous pousse pas à obéir à la parole de Dieu, c'est que là, il y a des problèmes. Mais quand on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous pousser à obéir. Même quand des fois c'est difficile, même quand des fois on va tomber, on n'arrive pas à marcher selon la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu va nous dire, lève-toi parce que je suis avec toi et puis vas-y. On a cet encouragement que le Saint-Esprit nous donne. Oui, déjà, c'est qu'il n'accepte même pas. C'est-à-dire, si on ne croit pas que nos péchés sont pardonnés, c'est que déjà, on n'a pas encore accepté que Christ est venu mourir pour nous à la croix, que le sang de Jésus là peut nous purifier. Parce que des fois, on pense que nos péchés là sont plus grands même que le sang de Jésus qui a coulé à la croix.
C'est ça, il y a une incompréhension.
C'est ça. Donc, il y a ça. Mais si on comprend que le sang de Jésus est tout, que la mort de Jésus est tout, en ce moment-là, on comprend que le péché là qui nous tient captifs, il est vaincu. Et puis, dans la deuxième démarche, quand on se répand dans l'objectif de la repentance, c'est de ne pas pécher. C'est ça, Lionel. Ça va maintenant, ça. Voilà, donc on touche à la question maintenant. C'est ça, parce que quand on se répand, oui, Myriam, donc on doit être libéré de ce fardeau-là. Donc, pour revenir à la repentance, c'est ça. Parce que lorsqu'on se répand, on demande d'abord la repentance, c'est la reconnaissance de son péché, demander pardon, et puis s'en détourner. Ce sont les trois éléments qui vont couvrir. Comme je disais, les étapes de la repentance, c'est ça. On va demander pardon, on va reconnaître, on va demander pardon et on se détourne du péché. C'est ça. L'objectif, ce que Dieu veut quand on vient à lui, c'est qu'on puisse se détourner du péché et puis avoir une vie qui l'honore, qui le glorifie. C'est ça. Donc, changement de conduite, de comportement. Donc, c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Toujours une repentance. Parce que si on ne se répand pas, on n'a pas demandé pardon. Mais justement, donc ils doivent comprendre la grâce de Dieu. Donc, ils doivent pouvoir accepter cette grâce de Dieu-là.
Ils
n'ont
pas compris.
Donc, ça prend des fois aussi un travail. Ça prend aussi des fois un travail de suivi pour que cela puisse se faire. 1 Jean 3, 6 à 10. J'avais mis ici, est-ce que le péché est pour autant mort, bien que nous soyons morts au péché, mais je pense qu'on a largement... Donc là, il nous parle un peu de la pratique du péché pour qu'on puisse faire la différence entre les enfants du diable et puis les enfants de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, mais on ne pratique pas, on ne se vote pas dedans. C'est-à-dire le désir de Dieu, parce que le désir de Dieu devient donc notre désir, c'est de rechercher à plaire à notre Père. Donc, c'est cela. Donc, Dieu mettra au fond de nous, par son esprit, le désir de le rechercher, le désir d'être plus proche de lui. Amen. Et comme Christ dans sa résurrection, Christ n'est pas resté dans le tombeau. D'abord, il était à la croix. On va aller avec les images. D'abord à la croix. Après la croix, on le met dans le tombeau. Et après, on retrouve le tombeau est vide. Et on nous dit qu'il est ressuscité. Donc, s'il est ressuscité, ça veut dire que celui qui était mort est devenu vivant. Donc, Christ est vivant. Dans notre union avec Christ, Christ participe non seulement de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Notre mort avec Christ met fin à notre ancienne vie de péché et sa domination sur nous, tandis que notre résurrection avec Christ commence en nous une vie par laquelle le Saint-Esprit fait son œuvre. Amen. Avant que le Saint-Esprit ne puisse commencer à faire son œuvre dans la vie des disciples, Jésus leur disait, mais il faut que je m'en aille afin que vous receviez l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc, la résurrection de Christ a fait en sorte que nous puissions bénéficier de sa vie en nous, de la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Alors, pour nous, quelles sont les conséquences donc de cette vie, de cette résurrection-là, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui? Quelles sont les conséquences de la résurrection de Christ dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu? Donc ça, c'est une espérance, une grande espérance. Oui, mais je veux d'abord qu'on revienne un peu sur notre résurrection avec lui. Parce que c'est ça notre espérance en réalité. Parce que l'apôtre Paul dit, mais si on dit que les morts ne ressuscitent pas, c'est que notre foi est? Notre foi est vaine. Parce que c'est ça notre espérance en réalité. Notre espérance, ce n'est pas seulement le bien-être terrestre ici qu'on va rechercher. Notre espérance, ce n'est pas le beau travail que je vais avoir. Ce n'est pas la belle voiture, ce n'est pas la grande richesse que je vais avoir ici qui est mon espérance. C'est vrai, Dieu peut nous faire grâce, nous bénir ici. Mais notre espérance, là, c'est notre rencontre, c'est ces éléments-là qu'on doit pouvoir déjà comprendre. Ça, c'est l'une des conséquences. La résurrection de Christ nous donne l'espérance et la joie même de notre résurrection, de notre espérance. Alors, quelles sont les conséquences de la résurrection de Christ pour nous aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? On a la vie éternelle. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, n'est-ce pas? Et vous serez mes témoins. Donc, avant de partir, il donne un ordre à ses disciples. Il leur dit, non, allez, attendez-moi là, ne faites rien avant mon action. Alors, avant ma vie en vous, attendez. Donc, Dieu nous donne la grâce de recevoir son esprit en nous. Et donc, c'est cet esprit-là qui va nous donner la force de marcher, de demeurer chrétien, de marcher dans notre vie chrétienne comme Dieu le désire, d'une manière digne. Donc, c'est ça. Donc, la résurrection de Christ, je dirais, nous donne d'être victorieux, nous donne la victoire. Donc, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en nous, on devient donc le temple du Saint-Esprit. Donc, la maison du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19 ou 2 Corinthiens 6, 16. Donc, nous appartenons à Dieu et de deux, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc, le temple de Dieu en nous. Alors, si cette remarque nous est faite, ça veut dire qu'on ne doit pas traiter notre corps n'importe comment. Donc, Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Nous donnons l'espérance de la résurrection et met son esprit en nous. Donc, notre corps devient donc le temple du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'on doit traiter notre corps pour rendre gloire à Dieu. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Or, nous disons que Dieu, c'est un Dieu saint. Donc, notre désir, c'est de rechercher la sanctification. Même quand des fois c'est difficile, on crie vers Dieu pour qu'il nous donne la force de pouvoir y aller. Même quand on va retomber, que l'Esprit de Dieu va nous dire, mon enfant, tu es en train d'aller dans la dérive, on doit pouvoir revenir pour dire, oui Seigneur, tu as raison, je reviens à toi. Et on doit pouvoir accepter, effectivement, que l'Esprit, le sang de Jésus est là pour nous purifier, puis Dieu est là pour nous relever, pour que nous puissions aller. La résurrection de Christ, c'est ça. On ne s'appartient plus, on appartient tout entier à Dieu. Donc, nous devons être dépendants de lui. Et puis, comme on l'a dit, pour pouvoir y arriver, c'est notre relation avec Dieu. Rechercher une intimité avec le Seigneur nous permettra non seulement de voir la grandeur, la majesté de Dieu, mais nous donnera encore la force de pouvoir davantage marcher et puis éviter les pièges de l'ennemi. Parce que le diable, comme la Bible dit, rôde comme un lion rugissant et puis cherche qui va dévorer. Mais quelle est la belle chair à croquer? Quelles sont ces os que je vais prendre? Donc il cherche et il va se retrouver. Mais il va rechercher dans la bergerie. Il va rechercher des occasions. Quand bien même qu'il sait qu'il est vaincu. Il dit résister. Je cherchais le passage, je ne sais plus dans 1 Pierre. Résister au diable et il fuira loin de vous. dans Jacques, voilà. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. On peut le lire? Jacques 4, 7. On va le lire. C'est ça. Donc, soumettez-vous à Dieu. On a dit, l'obéissance fait partie des éléments importants dans notre marche avec le Seigneur. Donc, l'obéissance. Donc, quand on va obéir, en obéissant, on se soumet à Dieu. Donc, quand on se soumet à Dieu, le diable, il fuit loin de nous. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui combattons. Ce n'est pas avec notre propre force, on se n'est-ce pas? Ce n'est pas avec notre propre force, on ne peut pas y arriver. Mais c'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est le Seigneur qui dirige les choses pour nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait les actions pour nous. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est même pas par les stratégies qu'on va mettre sur pied pour dire, je fais cette stratégie-là pour ne pas pécher. Cette stratégie pour ne pas pécher. Ce ne sont même pas ces stratégies-là qui nous donneront les moyens, les forces de vaincre le péché. Mais c'est la puissance de Dieu, la grâce de Dieu qui va vaincre le péché dans nos vies. Éphésiens 5, 18 qui dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, effectivement, c'est dans l'étude, c'est dans notre attachement au Seigneur, notre intimité avec lui, dans l'étude de la parole, dans les échanges, comme ça qu'on apprend à être rempli, qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est ça, faut mettre du bois dans le poêle. Faut mettre du bois dans le poêle. Oui, Myriam. Nous, en tant que frères, ce qu'on peut faire, c'est de nous exhorter, c'est de prier les uns pour les autres, c'est de, si on a la force de rencontrer le frère, c'est ce que la Bible nous conseille d'ailleurs, parce que si on a la force de rencontrer le frère, on peut l'interpeller. Mais on l'interpelle sur sa vie. Ah, mais ta vie, elle n'honore pas le Seigneur, mon cher. Qu'est-ce qui se passe? Avec, bien sûr, avec amour. Des fois aussi, avec dureté aussi. Ça dépend des moments. Donc, au moins, on peut parler avec le frère. Certainement que la personne vit une situation, essaie de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Donc, nous, on peut l'accompagner par la prière pour voir comment est-ce que cette personne peut, on peut l'aider au fait. C'est l'aide qu'on doit pouvoir apporter à la personne. Et puis, simplement des fois, je dirais, peut-être, simplement parler avec la personne, les liens se brisent et la personne est transformée. Des fois, ça peut être par la prière où Dieu va susciter une action spécifique. On a vu des personnes, par exemple, qui sont détournées, je dis, presque de la voix du Seigneur, mais par des moyens ou par un autre, Dieu les rappelle. Comprenez? Donc, je vais dire qu'on ne peut rien dire de cette personne. Ce qu'on peut dire, c'est de prier pour la personne et puis voir comment est-ce qu'on peut l'aider à sortir de là. Voilà. Après, on ne peut pas dire, ah, mais telle personne, mais elle n'est pas chrétienne. On ne sait pas quel est son engagement de foi. On ne peut pas dire aussi. Donc, ce qu'on peut faire vraiment, c'est de prier. Puis, c'est d'aller, comme on a dit, avec amour, comment racheter cette personne-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, j'arrive. Et puis aussi, ce que je voulais dire aussi, certainement que cette personne a besoin peut-être de discipline pour éviter de tomber dans un tel péché. Mais en discutant avec la personne, par notre expérience, par nos échanges, on le fait. Et bon, je donne un exemple banal. Je dis toujours, autrefois, par exemple, qu'est-ce que je faisais, moi, pour éviter certains péchés? Je pratiquais le sport. J'aime m'être allé jouer. Je sais que je suis seul. La convoitise va venir. Je suis seul, l'oisiveté. Je suis assis là, et puis là, tu vois, tu as un film. Et plein de choses te reviennent à l'esprit. Il a dit, bon, OK, c'est simple. Je vais faire mon sport, je couche, je viens, je suis épuisé, je dors. Tu es déjà fatigué. Donc, ça, c'est... Vous comprenez? Donc, je lui ai dit que souvent, il y a des éléments comme ça. Et puis, deuxièmement, je me souviens, on avait des frères qui venaient d'être convertis. Et puis, on s'est rendu compte que ces personnes-là, c'est des personnes qui aimaient sortir les soirs. Donc, tous les samedis, ils vont chauffer. Ils vont faire le show. Tous les samedis, le gars, il va, il chauffe, il vient. Quand ils ont accepté le Seigneur, on était autour de 3, 4 frères à l'église. Et puis, ils sont venus. Ils étaient près de 3, 4 aussi. Donc, on a dit, mais ça forme une bonne équipe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Les samedis soirs, puisqu'on sait que c'est leur habitude. En ce moment, on n'était pas mariés aussi, on était tout jeunes. C'est leur habitude. Les samedis soirs, ce qu'on faisait, Les samedis soirs, à partir de 18h, 19h, on se retrouve chez un frère. Puis on dit, bon, OK, aujourd'hui, on va au maquis, comme c'est leur habitude. Donc, on s'assoit, chacun commande, chacun prend sa... Le maquis, c'est un restaurant, voilà. Donc, le maquis, c'est un restaurant. Et puis, chacun va prendre peut-être sa bouteille de sucrerie. Ils ont l'habitude de prendre des bières, de la boisson, plein de boissons avec des... En tout cas, le poulet, tout ça. Nous, si on va s'asseoir avec eux, on va commander. On est avec eux, chacun prend sa sucrerie, on discute. Mais là, on ne discutait pas n'importe comment. C'est-à-dire, quand on se retrouvait, la parole de Dieu au centre. On envoie un sujet, et puis tout le monde débat. Quand on finit, à 22h, 23h, 24h, bon, les gars, demain, on va à l'église. Hein? Donc, on doit partir, chacun repart chez lui à la maison, on revient. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. On a procédé jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes en train de former d'autres chrétiens. Parce que c'était leur vie. Donc, il fallait trouver des moyens. Mais si on les laissait, il arrivait un moyen, non, mais la vie chrétienne, elle est trop compliquée, il y a trop de restrictions. Non, mais vous allez, non. On est chrétien, mais nous aussi, on va dans les restaurants. On est chrétien, mais nous aussi, on peut se commander un poulet et puis on va le manger. Mais on est chrétien, mais on peut se commander, on peut s'asseoir dans un restaurant et puis boire et puis discuter. Mais là, on ciblait des éléments spécifiques. Donc, je veux dire que souvent, il y a des éléments comme ça. Des personnes ont besoin juste de techniques ou de stratégies. Mais avec l'échange, c'est des choses comme ça qu'on peut avoir. Oui, excuse-moi. C'est ça, je suis d'accord. Mais même la confession, on va la faire dans la prière. C'est ça. Donc, au fait, la prière au centre de tout, qu'on le veuille ou pas, la prière, c'est l'élément central qui va nous connecter avec Dieu. Maintenant, en plus de la prière, comme on a dit tantôt, il y a des démarches qu'on va faire. Il y a rencontrer la personne pour cerner quel est son problème. Et donc, il y a plusieurs démarches qu'on peut faire autour. Mais la prière, c'est ce qui nous connecte à Dieu. On n'a pas le choix. C'est ça. C'est ce qui nous connecte à Dieu. Oui, Michel, et puis on va... Donc, d'abord, nous devons pouvoir reconnaître que nous sommes sanctifiés par le sang de Christ et nous formons une même plante avec Christ. Comme Christ est mort au péché, nous aussi, nous sommes morts au péché. Nous devons pouvoir l'accepter. Et puis, Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Non seulement nous ressusciterons avec lui, mais désormais, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen.